Bon matin à tous. Bon dimanche en cette belle journée. Ben oui. Quand la joie du Seigneur inonde nos cœurs, il fait toujours beau, hein? Ça n'en prend de l'appui. C'est la volonté de Dieu qui pleuve parfois. Hein? Puis c'est la mienne aussi parce que mon gazon, il en a besoin. Mon jardin aussi. Ce matin, on va continuer l'étude que nous avons débutée il y a deux semaines, dont le thème est « À la recherche de la volonté de Dieu ». Pas évident de trouver la volonté de Dieu, hein? J'aimerais ça avoir une recette là, spéciale, je veux pas dire magique, là, mais quelque chose de, tu sais, dire on cherche la volonté de Dieu, puis paf, ça apparaît, ou comme à l'époque de Daniel, hein, quand le doigt de Dieu est apparu et écrit sur le mur, sauf que ça n'a pas été une bonne affaire. J'aime mieux pas que ça se passe de même. La recherche de la volonté de Dieu, ça devrait être en priorité dans nos vies. Mais c'est dur à trouver. Et comme on a vu il y a deux semaines, c'est possible de la trouver. Il faut commencer par savoir que la volonté de Dieu comporte principalement deux aspects. Il y a sa volonté générale, qui est absolument la même pour tous. Et la volonté générale de Dieu, eh bien, c'est dans la Bible qu'on la trouve. Et le deuxième aspect, c'est sa volonté individuelle, qui, elle, n'est pas la même pour tous, parce que elle varie d'une personne à l'autre, selon les circonstances, selon l'appel que Dieu adresse à chacun. Et la volonté individuelle de Dieu ne se trouve pas dans la Bible, parce que c'est pas de la théologie. Et si je demande à Dieu, « Seigneur, est-ce que c'est mieux que je déménage à Tuknuxtuk ou à Trois-Rivières? » Ben, c'est pas dans la Bible que je vais trouver ça. Vous comprenez l'idée? Cependant, la volonté de Dieu, qu'elle soit générale ou individuelle, est toujours conforme à la parole de Dieu. Donc, on continue avec ce thème ce matin. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « C'est Dieu qui m'a conduit à faire ceci. » Ah non, moi je fais ça, mais c'est peut-être l'air pas correct pour toi, mais moi Dieu me l'a montré que j'étais correct là. Hein? Vous avez déjà entendu des gens dire ça? Dieu approuve ce que je fais, il me l'a montré, je le sens. OK, ça se peut très bien. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas confondre la volonté de Dieu avec notre propre volonté. Dans les dernières années, un frère bien-aimé dans le Seigneur que j'apprécie beaucoup a laissé son épouse après 52 ans de mariage pour aller avec une autre femme. Quand j'ai appris ça, c'était triste. Alors, je l'ai appelé pour parler avec lui, voir qu'est-ce qui se passe. Et lui, il est très en paix avec ça. Il m'a dit que pendant qu'il se promenait main dans la main avec sa nouvelle flamme, qui n'est pas chrétienne, ils ont ressenti la présence de Dieu tous les deux et une grande paix les ont envahis. Alors, Dieu est d'accord avec ça. Dieu approuve ça. Notre chair est forte, vous savez, et les désirs tortueux de nos cœurs savent s'imposer quand on leur en laisse l'occasion. Alors, avant de dire que nous sommes dans la volonté de Dieu, posons-nous la question. Premièrement, c'est la base, là. Est-ce que ma situation est conforme avec l'enseignement de la parole de Dieu? Puis attention de ne pas chercher dans la parole de Dieu ce qui fait notre affaire. Il y a un dicton qui dit « Celui qui demande un conseil cherche un complice ». Et c'est très vrai. Et malheureusement, des fois, on a tendance à faire ça avec la parole de Dieu aussi. De vouloir trouver ce qui fait notre affaire, ce qui va approuver parfois nos mauvais comportements, nos mauvaises attitudes ou toutes sortes de choses. Alors, il faut être prudent avec ça. La recherche de la volonté de Dieu se trouve dans la Bible, oui, sa volonté générale, mais aussi, que ce soit général ou individuel, ça demande beaucoup de prière. Le Saint-Esprit qui est en nous va nous diriger dans notre recherche de la volonté de Dieu, si on est honnête. Ça prend de la prière, mais ça prend de la réflexion aussi. Alors, parfois, il faut savoir aller voir quelqu'un de sage, un chrétien, une chrétienne que l'on connaît, qui est mature dans le Seigneur, et puis lui en parler. Mon frère, ma sœur, ou les anciens de l'Église, ou bon, il y a plein de gens qui nous entourent, là. Vous dites, mon frère, ma sœur, je recherche la volonté de Dieu parce que je suis dans telle ou telle situation, puis il me semble que... Alors, qu'est-ce que t'en penses? La parole de Dieu nous dit que la réussite réside dans le grand nombre de conseillers. Alors, c'est bon d'interroger des chrétiens matures autour de nous. Alors, la prière, la réflexion, mais le discernement aussi. Ça prend du discernement pour ne pas utiliser la Bible n'importe comment puis lui faire dire n'importe quoi. C'est facile de faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Croyez-vous ça? Ça me fait penser à cette histoire où un homme cherchait la volonté de Dieu pour sa vie. Il voulait pas prendre le temps de prier, puis d'examiner les Écritures et demander conseil. Il avait pas le temps pour ça, il était pressé. Alors, il se dit que, bon, ben, il va ouvrir la Bible. Après tout, c'est la parole de Dieu. Hein? Alors, il va ouvrir la Bible, et là, il l'ouvre au hasard, puis il se dit que Dieu va lui parler. Alors là, il tombe sur ce verset de Matthieu 27:5. Judas se retira et alla se pendre. Notre âme est un peu troublée, alors il rouvre sa Bible au hasard à un autre endroit et il tombe sur Luc 10:37. Et Jésus dit, va et toi fais de même. Notre âme se dit, Seigneur, t'es en train d'essayer de me dire quelque chose, là? Il fait une dernière tentative, il rouvre au hasard, puis il tombe sur Jean 13:27. Ce que tu fais, fais-le promptement. Évidemment, c'est une histoire exagérée, mais le fond de vérité dans ça, c'est que si on ouvre la parole de Dieu au hasard, puis qu'on cherche n'importe comment, on va trouver n'importe quoi. La parole de Dieu doit pas être prise hors contexte, puis on doit pas en fragmenter les passages non plus. Parce que ça peut être dangereux. On le voit ici, là. Alors, n'utilisons pas la parole de Dieu comme une loterie, mais avec discernement. Il y a une autre chose avec laquelle on doit être prudent, ce sont les songes, les visions, les prophéties. Bon, c'est vrai que on voit dans la parole de Dieu que le Seigneur, que l'Éternel a beaucoup utilisé cette façon de faire dans le passé. Et même, on voit aussi dans l'Ancien Testament que les sacrificateurs utilisaient parfois l'urim et le thummim. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, mais il semble que ce soit des pierres ou des dés, je ne sais pas trop, là, en rapport avec le pectoral. Et ça aidait à trouver la volonté de Dieu. Il tirait un peu ces objets-là, et puis Dieu parlait comme ça. En acte 1, des versets 15 à 26, on voit que les apôtres ont tiré au sort aussi, pour savoir qui remplacerait Judas. Donc, Dieu a utilisé toutes sortes de façons différentes pour nous montrer sa volonté. On le voit dans les Écritures. Cependant, depuis que la révélation de Dieu a été complétée et assemblée à la fin du premier siècle, c'est maintenant la Bible qui doit être notre guide dans la connaissance de Dieu et dans la recherche de sa volonté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » On ne vit plus à une époque où Dieu se révélait de plusieurs manières. C'est-à-dire les prophéties, les songes, les visions, ou en personne, ou par un doigt qui apparaît pour écrire sur le mur, etc. Nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps. Les derniers jours. C'est la même, des expressions qui vont dire la même chose. Et c'est par le Fils que Dieu nous parle aujourd'hui. C'est-à-dire par la parole de Dieu. Cependant, comprenez-moi bien, je veux pas mettre Dieu dans une boîte, là. Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, puis il n'y a pas de compte à rendre à personne. Alors, s'il veut, et ça arrive, je crois que ça arrive, on entend des histoires missionnaires parfois, où des missionnaires peuvent se mettre, mettons, à parler en langue, ou ben non, là, ils vont avoir une vision, un peu comme on a vu avec l'apôtre Paul dans Acte 15, Acte 16, où le Saint-Esprit l'a dirigé, etc. Je connais un chrétien, un frère d'un seigneur à Montréal, qui est iranien. Et il m'a dit, il y a 2 ou 3 ans, 5-6 ans peut-être, mais bref, pas important, il m'a dit que dans son pays d'origine, l'Iran, il avait vu dans un journal écrit par des musulmans et pour des musulmans qu'il y avait environ 100 000 personnes dans l'année qui s'étaient converties au christianisme parce qu'ils avaient rêvé de Jésus. Alors, est-ce que Dieu peut encore utiliser ça? Oui, absolument. Il est Dieu, puis je veux pas le mettre dans une boîte, puis il n'y a pas de compte à rendre à personne. Ce que je dis, c'est que ces choses-là ne sont pas la norme. Ce n'est donc pas dans ces choses-là qu'on doit chercher la volonté de Dieu, mais dans sa parole. Parce que dans les derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Alors, si Dieu veut rejoindre quelqu'un d'une manière ou d'une autre, parce que ces gens-là n'ont pas la parole de Dieu entre les mains, il peut faire ce qu'il veut. Alors, comprenez-moi bien, je suis pas dans un extrême. Ce que je veux dire, c'est que, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et c'est qui le Fils? Jean 1 nous dit quoi? Que Jésus est la parole de Dieu. J'ai connu une femme, à un moment donné, qui, c'était une jeune chrétienne, elle avait peut-être 1 an et demi, 2 ans de vie chrétienne, et quand je lui ai demandé si elle lisait sa Bible, puis je lui ai demandé de me parler de comment ça se passait pour elle, comme je le fais souvent avec les gens. Ah, tu moi, je lis pas ça, la Bible. Non, tu lis pas la Bible? Non, ah, tu moi, je suis au-dessus de ça. Oui, parce qu'elle me disait que le Saint-Esprit lui susurrait à l'oreille tous les jours ce qu'elle devait savoir. Donc, elle n'avait pas besoin de lire la Bible. J'ai connu un homme qui demandait régulièrement à ses enfants à quoi il rêvait la nuit. Le matin, il leur demandait. Juste au cas où ils auraient eu un songe venant de Dieu. Et j'en ai connu d'autres qui carburent à ça, aux songes, aux visions, aux prophéties et à toutes sortes d'expériences mystiques. Mais ce n'est pas dans ces choses-là que l'on doit chercher la volonté de Dieu, comme il est écrit ici. Dieu veut que l'on vive selon sa parole. Alors, c'est la Bible, la parole de Dieu, qui doit être notre guide premier dans la recherche de la volonté de Dieu. Courons pas après des choses mystiques, on va courir après du vent. Si Dieu veut nous révéler quelque chose d'une manière spéciale, libre à lui de le faire. Mais c'est pas ça qu'il nous dit qu'on doit faire. Parce qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et ça va être comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Alors, la volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu qu'on doit la trouver. Et sa volonté générale, qui concerne absolument tout le monde, tous les croyants en tout cas, pour la trouver, on n'a pas besoin de songe ou de vision. Il suffit de lire la Bible. Puis je pense qu'on en a déjà pas mal plein les bras à lire la parole de Dieu, puis l'assimiler, puis la comprendre, puis la mettre en application, qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs à côté, là. Honnêtement, hein? Dans le dernier message de la série, oui, qu'on va voir la semaine prochaine, on va voir comment discerner la volonté individuelle de Dieu, qui ne se trouve pas dans la Bible, parce qu'elle a rapport aux circonstances et à l'appel particulier de chacun. Cependant, on va voir que ce n'est pas non plus par des révélations spéciales qu'on la trouve, ou par des songes, ou par des visions. Ça n'a rien de mystique. Vous allez voir que Dieu nous guide là-dedans aussi. Et évidemment, tout ça est en bonne cohérence avec la parole de Dieu. Mais ce matin, on continue dans sa volonté générale. Parce que, avant de voir comment trouver la volonté individuelle de Dieu pour nous, il est primordial de bien comprendre quelle est sa volonté générale. Donc, il y a 2 semaines, on a vu que, premièrement, ce que Dieu veut, c'est que l'on vive pour sa gloire. Parce qu'on a été créé pour et par Jésus. Et pour la gloire de Dieu. Tout le message portait là-dessus. Donc, si on recherche la volonté de Dieu, la première chose à comprendre, c'est que Dieu veut que l'on vive pour sa gloire. Et deuxièmement, c'est que Dieu veut que l'on soit sauvé. Tournez avec moi dans Éphésiens 1. La volonté de Dieu, c'est qu'on accepte son salut. 1 Timothée 2,4 nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que, c'est sa volonté que tous les hommes soient sauvés. Et pourquoi il veut ça? Comme on l'a vu la dernière fois, pour qu'on vive pour sa gloire. Et chaque étape du salut nous le démontre. Que ce soit l'élection, la rédemption ou l'adoption, chaque étape du salut pointe vers la gloire de Dieu. Éphésiens 1, versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Alors, élus, prédestinés, adoptés ou rachetés selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous vivions pour sa gloire. Mais on ne peut pas vivre pour la gloire de Dieu si on n'a pas été racheté par le Seigneur. Alors, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Parce que ce que Dieu veut, c'est sa gloire. C'est correct de même. Alors, on a été élus, prédestinés et rachetés pour la gloire de Dieu. Et c'est dans ce but-là que Dieu veut qu'on soit sauvé. Alors, le salut, c'est notre point de départ dans la recherche de la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'a aucune raison de nous révéler quoi que ce soit concernant sa volonté si on n'est pas sauvé. Je répète. Dieu n'a aucune raison de nous révéler quoi que ce soit concernant sa volonté si on n'est pas sauvé. Parce que la Bible dit que sans Christ, l'homme est ennemi de Dieu. La Bible dit que sans Christ, nous sommes séparés de Dieu. Et la seule chose que Dieu révèle à ceux qui le rejettent, donc qui sont ses ennemis et séparés, vous savez, ennemi de Dieu ne veut pas dire qu'on se bat contre lui, puis qu'on le maudit, puis non, juste le fait de ne pas accepter le salut qu'il nous offre, on est ennemi de Dieu, ennemi de la croix, séparé de Dieu. Alors, je peux être un ben bon gars, puis j'en suis un, mais je peux être un ben bon gars, mais si je rejette le Seigneur, je suis ennemi de Dieu. Ça, c'est la première chose à comprendre. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais non, mais je suis une bonne personne, moi, puis Dieu, on est chumé. C'est pas le même que ça marche. Si Jésus-Christ n'a pas racheté notre âme, on est ennemi de Dieu et séparé de lui pour l'éternité. Alors, la seule chose que Dieu révèle à ceux qui le rejettent, c'est la fin qui les attend. Vous savez, c'est quoi la fin qui attend ceux qui rejettent Dieu? C'est l'enfer. La Bible nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez-vous, le verbe demeure. Il y a comme une constance. Alors, si je suis ennemi de Dieu, si je rejette le salut qu'il m'offre, alors, la colère de Dieu plane sur moi présentement et elle va le demeurer pour l'éternité si, avant la fin de mes jours, je n'accepte pas le salut qu'il m'offre. C'est une épée Damoclès qui pend au-dessus de ma tête. Jésus nous aime puis a donné sa vie à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Alors, il faut se repentir et accepter le salut. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour nous. Même si dans sa souveraineté, Dieu nous a élus et prédestinés depuis avant la fondation du monde, on est quand même responsable de répondre à l'appel du salut. Parce que la souveraineté de Dieu n'annule jamais la responsabilité humaine. La souveraineté de Dieu n'annule jamais la responsabilité humaine. Les deux positions sont dures à concilier ensemble, mais elles sont vraies. Alors, il y a des gens qui vont dans un extrême ou dans l'autre avec ça. Mais il faut savoir qu'on est responsable quand même si Dieu est pleinement souverain. Alors, même si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, nous dit 1 Timothée 2,4, c'est pas pour autant que tous les hommes vont être sauvés. Parce qu'on est responsable devant Dieu d'accepter ou de refuser le salut qu'il nous offre. Comme on a vu il y a 2 semaines, le salut de Christ est suffisant pour tout le monde. Mais il ne s'applique qu'à ceux qui le reçoivent. Et 1 Timothée 2,4, quand ça dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ce n'est pas un verset qui enseigne l'universalisme. L'universalisme, ça veut dire que à la fin, tout le monde va être sauvé, sans exception. Après, une espèce de purgatoire évangélique, là, il y a toutes sortes de théories là-dedans. À la fin, Dieu va sauver tout le monde. Et j'ai même entendu que même Satan serait racheté à la fin. Ça, c'est la doctrine universaliste. Mais c'est pas ça qu'un Timothée 2,4 enseigne. D'ailleurs, il n'y a rien, mais absolument rien dans toute la Bible qui enseigne une telle chose farfelue. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu est amour. À un moment donné, je parlais avec quelqu'un et il me dit, « Voyons, Tony, voyons si Dieu va envoyer quelqu'un en enfer. Dieu est amour. » Il faut savoir que Dieu n'envoie personne en enfer. Absolument personne. En enfer, on y va tout seul à cause de nos péchés. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Nos péchés nous condamnent. On est condamné. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort physique et c'est la mort spirituelle, la deuxième mort que la Bible appelle, à au moins 4 reprises. L'amour de Dieu n'annule pas sa justice. Alors Dieu n'envoie personne en enfer, on y va tout seul à cause de nos péchés. Ce que Dieu fait, c'est de nous offrir une porte de sortie pour ne pas y aller. Vous savez, si l'amour de Dieu était plus grand que sa justice, ben il y aurait un problème dans ses attributs. Parce que la justice de Dieu est égale à son amour. C'est vrai que Dieu est amour, mais il est juste. Et parce qu'il est juste, Dieu ne peut pas fermer les yeux sur notre péché. Parce que ça irait à l'encontre de sa propre sainteté. Et savez-vous comment Dieu serait injuste? Ce serait de nous pardonner nos péchés sans Christ à la croix. Ce serait de nous pardonner nos péchés sans que Jésus ait accompli notre salut. Dieu serait injuste envers lui-même et envers sa sainteté. La sainteté de Dieu est offensée par nos péchés. Et Dieu ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il faut que ce soit jugé et condamné. Et c'est là que Christ intervient. Il le fait à notre place. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, son amour, qu'il a donné son Fils unique afin que sa justice, Dieu n'a pas fermé les yeux sur notre péché, il nous a rachetés de nos péchés. Romains 5. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, quoi? Christ est mort pour nous, sa justice. L'amour et la justice de Dieu sont tous les deux présents à la croix. Le Seigneur Jésus a pris notre place et il a reçu la condamnation que nous méritons à cause de nos péchés pour assouvir sa justice et c'est parce qu'il nous aime qu'il a fait ça. Alors il n'envoie personne en enfer. Et c'est pas vrai que parce qu'il est amour, personne ne va aller en enfer. Parce qu'il nous aime, et parce qu'il est juste, il a fait ce qu'il faut pour nous racheter. Mais si on le refuse, c'est pas à cause de lui qu'on va en enfer, c'est à cause de nous. Parce qu'en pleine conscience des choses, on aura refusé la seule porte de sortie qui nous évite l'enfer. Alors, 1 Timothée 2,4 n'est pas un verset qui enseigne l'universalisme. C'est un appel à la prière pour le salut de tous les hommes. Tournez dans 1 Timothée 2. On va aller voir le contexte. 1 Timothée 2. Alors pendant que vous tournez, je répète, 1 Timothée 2, 4 n'est pas un verset qui enseigne l'universalisme, mais c'est un appel à la prière pour le salut de tous les hommes. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'y a pas d'universaliste là-dedans. Si la parole de Dieu nous appelle à prier pour le salut des hommes, c'est parce qu'on a besoin d'être sauvés. Donc, il n'y a pas question ici que tout le monde soit sauvé par défaut à la fin. Ça ne fait pas de sens. Quoi qu'il en soit, qu'en est-il de toi dans la salle? Ou peut-être que tu nous regardes à la maison sur Internet. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu as accepté le salut de Dieu? Parce que si tu n'as pas pris conscience du sens de la croix et du fait que Jésus veut sauver ton âme, tu es bien loin de la volonté de Dieu pour toi. Parce que Dieu ne te révélera pas sa volonté si tu n'y appartiens pas. La seule chose qui va te révéler, c'est ce qui t'attend si tu n'as pas le salut. Mais Dieu veut te sauver. Le Seigneur veut entrer en relation avec toi. Il veut être ton guide dans la vie. Il veut être ton espérance face à la mort. Il t'offre la connaissance de la vérité en lui et bien d'autres choses encore. Ça, c'est premièrement la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut te sauver et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Alors, as-tu accepté le salut de Dieu? C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne. Peut-être que tu as grandi dans l'église et tu es allé à l'école du dimanche, fais partie des groupes jeunesse. Peut-être que c'est ton cas. Mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu, ça. Parce que Dieu a des enfants, mais il n'a pas de petits-enfants. Alors, la foi de tes parents ne garantit pas la tienne. Tes parents t'ont peut-être appris la foi, t'ont conduit dans les voies de Dieu, mais tu dois personnellement accepter le salut que Dieu t'offre, parce que Dieu a des enfants, mais il n'a pas de petits-enfants. Ce n'est pas automatique. C'est un choix personnel que tu as à faire. Tu dois personnellement confesser tes péchés et demander à Jésus de te sauver. Ou peut-être que tu sais très bien que tu es dans la salle ce matin ou à la maison, et peut-être que tu sais très bien que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais peut-être que tu chemines vers le salut. Et gloire à Dieu si c'est le cas. Mais si c'est le cas, alors si c'est le cas, sache que Dieu a un rendez-vous avec toi ce matin. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver parce que c'est sa volonté pour toi. Il aimerait tant que tu fasses de lui son Dieu et il aimerait tant faire de toi son enfant. Réponds à son appel. Qui que tu sois, si Jésus n'est pas le sauveur de ton âme et le Seigneur de ta vie, prends position maintenant. Mets ton orgueil de côté. Laisse ton orgueil de côté. Laisse faire ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que le salut de ton âme n'est pas plus important que l'opinion de quelqu'un d'autre? Parce que de toute façon, quand tu vas comparaître devant le Créateur, là, ce que l'autre en pensait, ça ne comptera pas. Tout ce qui va compter, c'est ce que toi, tu auras décidé de faire avec le salut que Jésus t'offre. Alors, mets ton orgueil de côté, laisse faire ce que les autres vont faire, ou quoi que ce soit qui jusqu'à maintenant t'a empêché de venir à Jésus, et repens-toi devant lui. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Dans le livre des Actes, on peut lire, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. » Alors, la foi de mes parents, ou ma propre religion, ou ma bonne philosophie, ne compte pas, parce que tous les hommes en tout lieu ont à se repentir. Le salut s'obtient par la repentance.
C'est-à-dire de se présenter à la croix et de dire, Seigneur Jésus, je crois que ce que tu as fait pour moi, c'est de mourir pour mes péchés parce que je n'étais pas capable par moi-même. Ah Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma conscience, je dépose mes péchés au pied de la croix puis je t'en demande pardon. En retour, couvre-moi de ta sainteté. C'est ça que vous devez faire si vous voulez recevoir le salut de Dieu et vous pouvez le faire maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. N'attends pas. Demain sera peut-être trop tard. Dieu veut te sauver. Tu es un privilégié. Tu es une privilégiaire. Réponds à son appel. De toute façon, tu ne pourras pas aller plus loin dans la recherche de la volonté de Dieu si tu ne franchis pas personnellement cette étape-là. Il y a un autre aspect de la volonté de Dieu en rapport avec le salut que j'aimerais aborder ici. Et c'est une promesse tellement rassurante, réconfortante et merveilleuse. Il s'agit de l'assurance du salut. Hey, quand j'étais plus jeune puis je cherchais la vérité, je cognais à toutes les portes, pas pour évangéliser, mais pour avoir des réponses. Et puis, j'essayais d'avoir l'assurance du salut, puis tout ce qu'on me disait, c'est « Ben voyons, tu peux pas. » Une fois, je témoignais à une dame, puis elle me disait que j'étais orgueilleux, arrogant et prétentieux de dire que j'avais l'assurance de mon salut. Elle aurait eu raison si le salut dépendait de moi. Mais le salut ne dépend pas de moi. Il dépend de Jésus, qui a tout fait, absolument tout fait. J'ai grandi dans l'Église catholique romaine. Et on m'avait appris que c'était impossible de savoir si on était sauvé. Et c'est le cas pour toutes les religions. Elles enseignent à faire de ton mieux en essayant d'obtenir la note de passage, puis qu'au final, ben, si tu l'as, tant mieux, sinon tant pis. Hey, c'est une espérance morte, ça. C'est tellement triste. Mais la parole de Dieu nous offre quelque chose d'infiniment plus grand que ça. La parole de Dieu nous dit... Voici ce témoignage. Ce que Dieu nous a donné, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je peux savoir un amen là-dessus? Amen. Quelle promesse extraordinaire, frères et sœurs! Dieu nous garantit le salut si on est en lui. C'est l'assurance de la vie éternelle. Et avant de me convertir, j'avais peur de mourir. Bon, aujourd'hui, je veux pas mourir parce que la vie est belle, là, mais je veux dire, j'ai pas peur de mourir parce que je sais où est-ce que je vais aller, pas à cause de moi, pas à cause que je me suis... comment on dit, ancré de pensées positives, puis j'ai essayé de me... Non. Je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit que celui qui a le Fils a la vie. C'est une certitude. Là. Il n'y a pas de possibilité là-dedans. C'est une certitude. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça aussi, malheureusement, c'est une certitude. Dans quel bord vous êtes ce matin? Du côté de celui qui a le Fils ou de celui qui n'a pas le Fils? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est-tu pas extraordinaire? Hein? Dieu veut, c'est sa volonté, que nous ayons l'assurance du salut. Alors, il nous l'affirme ici, hors de tout doute, pour apaiser notre âme, frères et sœurs. Je peux savoir un autre amen là-dessus? Amen. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette assurance, cette affirmation extraordinaire, tellement rassurante, réconfortante, la certitude du salut en Jésus-Christ. Un autre point dans la recherche de la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que nous soyons remplis de l'Esprit. Tournez dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, on va lire les versets 15 à 20. La parole de Dieu nous dit ceci. « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la Bible nous dit ici que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit? Je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire-là, mais je vais vous la raconter encore ici, parce que je crois qu'elle est tellement de mise. Il y a plusieurs années, quand j'étais pasteur dans un autre endroit, il y avait un frère dans l'église qui fréquentait une église voisine, parce que, bon, il y avait de la famille là et tout ça. Alors, il me raconte qu'un matin, il était là un dimanche matin, en arrière, debout, derrière la salle, et là, il dit, il m'a passé un frisson dans le dos. Puis il dit, au moment même où j'ai ressenti ça, le prédicateur en avant a arrêté de prêcher, puis il s'est mis à faire la poule. Sur la scène. Et là, il dit, à ce moment-là, la moitié de la salle s'est mise à rire et l'autre moitié de la salle s'est mise à pleurer, mais tout le monde en même temps. Alors, il dit, j'ai pas aimé ça. Il dit, je suis là vraiment mal. Il dit, c'était pas normal. Alors, la première réflexe qu'il a eu, c'est d'aller chercher sa fille à l'école du dimanche. Alors, il s'en va sur le côté, l'escalier était sur le côté de l'église, il descend au sous-sol pour aller chercher sa fille, et dans les marches, il y avait un gars qui était couché, puis il se vomissait dessus. Et là, il dit, « T'es-tu correct? Tu veux-tu un verre d'eau? Veux-tu quelque chose? » Le gars, il dit, « Non, je suis tellement rempli de l'esprit que je déborde. » C'est pas ça que ça veut dire, être rempli de l'esprit. Ça, c'est même être rempli de totalement autre chose. Être rempli d'esprit, ça n'a rien à voir avec ce genre de choses-là. D'ailleurs, dans le passage qu'on vient de lire, où il nous est dit d'être rempli de l'esprit, en Éphésiens 5, 18, ce dont il est question, ce n'est pas d'agir de façon totalement insensée et farfelue au point de se vomir dessus. Ce dont il est question, c'est de la poursuite de la sanctification. Et c'est encore le même contexte dans Éphésiens 4, un chapitre juste avant, où il nous dit de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas attrister l'esprit, tout ça. C'est la poursuite de la sanctification. Ça, c'est d'être rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit, c'est de lui donner toute la place pour agir dans notre vie et de se laisser guider par lui. Être rempli du Saint-Esprit, c'est le laisser agir en nous pour nous donner la force, la conviction et le courage, le désir de lutter contre le péché. Le psalmiste dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Être rempli du Saint-Esprit, c'est désirer faire la volonté de Dieu. Désirer, aspirer à devenir de plus en plus comme Jésus. Et c'est aussi la volonté de Dieu pour nous, qui nous transforme de gloire en gloire, de plus en plus à l'image de son Fils. Alors, être rempli du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec toutes sortes de folies humaines, voire même démoniaques. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la poursuite de la sanctification, dans la recherche toujours plus profonde de la connaissance de Dieu. Et c'est de se laisser émerveiller par Jésus-Christ, par qui il est, par ce qu'il fait pour nous, et par qui nous sommes, notre identité en lui. Mais pour ça, il faut s'imprégner des choses de Dieu. Le verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu. » Quand on est rempli de l'Esprit, on a le cœur dans la joie de notre salut et on a le goût de célébrer l'Éternel. Ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Mais pour ça, il faut d'abord être sauvé. Parce que c'est au moment de notre nouvelle naissance que le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est à partir de ce moment-là que la volonté de Dieu pour nous, on va commencer à la comprendre et qu'on va vouloir laisser le Saint-Esprit prendre toute la place en nous et qu'on va vouloir le laisser nous guider dans les voies de Dieu et vers la sainteté. Romains 8:9 nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ici, j'aimerais relever une chose. C'est que tout chrétien, sans exception, a reçu le Saint-Esprit à sa conversion. Sinon, il n'a pas été sauvé. Je dis ça parce que il y a des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau, j'en ai rencontré, mais qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pas biblique, ça. C'est pas biblique, c'est une mauvaise théologie, une mauvaise compréhension de la chose. Parce que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est notre conversion. Au moment même où on plie le genou devant la croix, puis qu'on dit à Jésus qu'on veut être sauvé, qu'on lui rend grâce parce qu'il a payé la dette de nos péchés, au moment même où on reçoit Jésus comme le sauveur de notre âme et le Seigneur de notre vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'à partir de ce moment-là, on est une nouvelle créature. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Ça ne se fait pas dans une deuxième phase. Il y a des gens qui enseignent ça, que le Saint-Esprit vient dans une deuxième phase, mais c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la conversion. Et être rempli du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec toutes sortes de manifestations bizarres, puis encore moins de se vomir dessus. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire être imprégné des choses de Dieu et laisser le Saint-Esprit qui vit en nous nous transformer de plus en plus à l'image du Seigneur. C'est de le laisser par la puissance qu'il nous donne. Pierre va écrire que l'Esprit nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si on est capable de poursuivre notre sanctification, c'est parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Parce qu'humainement parlant, on ne peut pas, on ne veut même pas. Le Saint-Esprit fait toute la différence. Être rempli du Saint-Esprit, c'est de poursuivre notre sanctification, et ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Alors Dieu veut que l'on vive pour sa gloire. Dieu veut que l'on soit sauvé. Dieu veut que l'on soit rempli de son Esprit. On va voir le restant la semaine prochaine. Mais en attendant, soyons conscients que c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Et recherchons sa volonté dans ce qu'il nous a donné pour la trouver dans les derniers jours. Sa parole. Peu importe la situation dans laquelle on peut se trouver ce matin. On peut chercher la volonté dans bien des directions différentes pour toutes sortes de raisons, mais c'est la parole de Dieu qui doit être notre premier pas. Ensuite, comme on va le voir la semaine prochaine, n'hésitez pas à demander à des gens de vous aider. Faites-le dans un esprit de prière. Le Saint-Esprit qui est en vous va vous diriger. Parce que ce que Dieu veut, c'est que vous fassiez sa volonté. Et ce que Dieu veut, c'est la recherche de notre sanctification. Et pour ça, il faut être sauvé. Remercions le Seigneur parce que il nous a pas laissés orphelins. Le Seigneur Jésus veut qu'on le trouve et il se laisse trouver par nous. Même chose pour sa volonté. Et c'est d'abord auprès de lui, dans notre communion personnelle avec lui, mais aussi en ouvrant sa parole, qu'on va commencer à la trouver. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci. Merci Seigneur, parce que toi, le Dieu créateur, celui qui a créé l'univers et tout ce qu'elle contient, toi Seigneur, tu t'intéresses à nous, tu nous aimes à la folie, tu nous as rachetés, tu nous as prouvé ton amour, tu as manifesté ta justice. Et Seigneur, aujourd'hui, tu veux qu'on continue à marcher avec toi. Trouver ta volonté n'est pas facile, mais tu nous l'indiques. Alors Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et bénis cette étude afin que l'on puisse apprendre à connaître davantage, à trouver ta volonté, afin Jésus que ton nom soit élevé bien haut à travers chacune de nos vies. Gloire à toi Seigneur. Amen.